They don't know of any program in Uganda.
Of course not.
يصلون الليل بالنهار استعدادا.
What will be your reaction?
21 веке гражданка Райс вспомнила.
这两天原本居住在祁连县偏远牧区的牧民达姆家
正忙
着。Todos juntos.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez sur France Culture du lundi au vendredi. On est ensemble jusqu'à 11h50. De retour donc aux manettes de Culture Monde après une semaine passée avec Xavier Martinet. Cette semaine, alors que nous allons doucement basculer de cette année 2015 vers l'année 2016, on a choisi de nous pencher sur quelques grands rendez-vous politiques, quelques grands défis qui sont devant nous. De 2015 à 2016, un monde en marche. On s'intéressera cette semaine à l'Afrique où plusieurs pays vont organiser des élections qu'il faudra regarder près puisque leurs présidents sont souvent des chefs d'État installés depuis un certain temps et que les sociétés attendent du changement. On pense à la RDC avec un Kabila qui se verrait bien partir pour un troisième mandat. On pense au Bénin, Beni Yayi. On pense aussi au Tchad d'Idriss Déby. On évoquera également l'Union Européenne qui, l'année prochaine encore, devra faire face à ce qui est peut-être le plus grand défi de sa jeune histoire, l'immigration. Et puis, nous nous intéresserons à la Chine. Depuis plusieurs mois, les signes du ralentissement inquiètent, les taux de croissance sont au plus bas. Nous en profiterons d'ailleurs peut-être pour faire un parallèle avec la trajectoire de son voisin indien qui lui garde une croissance assez dynamique. Et puis pour commencer donc cette série autour de ce monde en marche, cap sur la toute fin de l'année. Où se dérouleront des élections majeures, celles qui mettront fin aux deux mandats successifs de Barack Obama, les élections américaines, et celui qui, depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois maintenant, est au centre de toutes les attentions, c'est Donald Trump, bien sûr.
Quand le Mexique nous envoie ses migrants, ils n'envoient pas les meilleurs. Ils envoient les gens qui ont beaucoup de problèmes. Et ils amènent ces problèmes avec eux. Ils amènent la drogue, ils amènent le crime, ils amènent les violeurs, et certains sont des gens bien, je suppose. Écrit par un gentil journaliste handicapé. Oh, maintenant, le pauvre gars, vous devriez voir ça. Oh, je ne savais pas ce que je disais, je ne me souviens plus. Il fait, je ne me souviens pas.
Moi, Donald Trump, je demande la fermeture totale et complète des États-Unis aux musulmans qui souhaitent y entrer. Et ce, jusqu'à ce que les représentants de notre pays soient en mesure de comprendre ce qui est en train de se passer.
Interdire le territoire aux musulmans étrangers, réclamer leur fichage lorsqu'ils sont déjà là, faire de la plupart des migrants des drogués, des criminels, des violeurs, se moquer ouvertement du handicap physique d'un journaliste ou alors insulter le sénateur ancien candidat lui-même et héros de la guerre du Vietnam, John McCain. Aucune provocation ne semble avoir raison de l'inexorable montée de Donald Trump dans les sondages, alors que personne ne le donnait favori il y a encore 6 mois. Voilà que le milliardaire américain, mania de l'immobilier, caracole en tête des sondages pour cette primaire républicaine. En effet, selon un récent sondage du Washington Post ABC, Trump recueillerait 38% du vote républicain, c'est-à-dire 3 fois plus que son premier poursuivant, Ted Cruz, qui recueille lui 14%. De quoi agacer toute la classe politique et de quoi agacer en particulier son propre parti. Alors comment comprendre cette inexorable montée de Donald Trump? Quelles sont ses chances dans les primaires républicaines qui débutent maintenant très bientôt, ça sera début février? Peut-il être l'élu parmi les 12 candidats encore en lice et le cas échéant, a-t-il une chance d'être élu? Et puis finalement, est-ce que cette montée dans les sondages ne fait pas aussi le jeu de l'autre favori de l'autre côté, côté démocrate, cette fois d'Hillary Clinton? Voilà toutes les questions qui vont nous intéresser ce matin. Et pour les aborder, on a invité 2 personnes. D'abord, un historien spécialiste des États-Unis, André Caspi. Bonjour, André Caspi.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Et également à vos côtés, Soufiane Al-Sabak. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, vous, un spécialiste des affaires intérieures américaines et du Parti républicain, ce qui va beaucoup nous intéresser aujourd'hui, et en particulier auteur d'un blog, La Quatrième Voie, où vous analysez cette politique intérieure américaine. Alors, je le disais, ça fait des mois qu'on nous explique que le phénomène Donald Trump va passer, qu'il va finir par baisser dans les sondages, qu'il va être mis sous la touche par son parti. À chaque fois, il sort des énormités. On se dit que c'est le dérapage de trop, et puis force est de constater qu'il est toujours là, qu'il fait la tête, qu'il est en tête, qu'il a quasiment cannibalisé ce débat des primaires. Il y a quelque chose d'effroyablement inexorable dans l'ascension de cet homme. Comment est-ce qu'on peut l'analyser, André Caspi? Au fond, pourquoi ce succès?
Je crois que tout d'abord, Donald Trump a cette particularité de dire tout haut ce qu'un certain nombre d'Américains pensent tout bas. Et il le dit avec force, il le dit sans utiliser de périphrase, de telle sorte que c'est ce langage brutal qui séduit. Alors ça peut paraître étonnant, mais il ne faut pas oublier que dans une campagne électorale, qu'elle soit américaine ou non, le langage brutal a toujours des supporters. Et puis il y a peut-être encore d'autres raisons, c'est que Donald Trump, étant très riche, n'a pas besoin de soutien financier, puisqu'il est son propre soutien financier. Et j'ajouterai à cela que, en face de lui, il a des candidats qui ne représentent pas véritablement les grandes préoccupations de leurs concitoyens, et que, au fond, Donald Trump, c'est un peu l'expression du ras-le-bol que bien des Américains éprouvent à l'égard du système politique. C'est-à-dire qu'au fond, ils en ont assez d'entendre des politiciens qui utilisent la langue de bois, qui ne sont pas très 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 violents, qui en somme prennent des précautions que les Américains estiment inutiles. Donald Trump, c'est l'homme qui fonce, et parce qu'il fonce, il rassemble autour de lui un certain nombre de républicains. Cela dit, il ne faut pas penser que la majorité des Américains sont derrière Donald Trump. Mmh. Jusqu'à preuve du contraire, ça n'est pas vrai. Mais il est évident qu'il surprend dans le paysage politique, et c'est parce qu'il surprend qu'il réussit.
Soufiane El-Sabag, comment est-ce que vous voyez les choses? André Caspi nous dit il y a ce franc-parler, il y a sa force financière, sa capacité financière, il y a le fait que c'est un candidat anti-système. Est-ce que vous verriez d'autres choses?
C'est très juste. Pas grand-chose d'autre à dire sur ce qui est des éléments factuels et sur l'espèce de psychose collective qui fait son nid au sein du Parti républicain depuis de nombreuses années.
Il nous dit un candidat anti-système, c'est des choses qu'on entend, nous, évidemment, ça résonne particulièrement chez nous, on pense bien sûr au Front National, et d'ailleurs, on a parfois fait des parallèles entre Donald Trump et Jean-Marie Le Pen. Les limites de cette comparaison?
Les limites de cette comparaison, je pense que se trouvent tout simplement dans deux paramètres très importants qu'on oublie constamment. Sur ce qu'est une primaire américaine, et notamment du côté du Parti républicain. La primaire américaine, c'est déjà des gens qui votent. On parle beaucoup de Donald Trump depuis 6 mois, mais factuellement, 0 vote n'a été enregistré depuis 6 mois. Donc Donald Trump, pour l'instant, ce n'est qu'un événement fictif, ce n'est que de la réaction, ce n'est que de la provocation, ce n'est que des réseaux sociaux, ce n'est qu'une espèce de bulle spéculative qui se fait autour de Donald Trump. Donc il faudra attendre les premiers votes, le 1er février, pour savoir où se trouve Donald Trump.
Ce qu'on a déjà pu voir, c'est que dans les débats avec les autres candidats républicains, il s'en sort pas si mal.
Mais c'est que de la provocation. Si on creuse les idées de Donald Trump, et on va y venir, parce que là, quand il va s'agir de mettre un bulletin dans l'urne, et se demander est-ce que cet homme peut battre Hillary Clinton, là les électeurs républicains dans l'Iowa, dans le New Hampshire, vont réfléchir de manière tout à fait différente. Et on le voit dans les sondages. Dans l'Iowa, le 1er février, Trump est déjà en difficulté. Il était donné gagnant, c'est plus le cas, c'est Cruz qui s'impose en tête.
Sur le programme, justement, André Caspi, en quoi les positions de Trump sont-elles en décalage par rapport, disons, à la ligne globale? Alors, faut-il encore, je ne sais pas s'il y a une ligne globale au Parti républicain, mais la ligne majoritaire dans le parti?
Tout d'abord, ce qu'il faut noter, je crois, c'est que on ne peut pas faire une comparaison entre le Front National et Donald Trump. Le Front National, c'est un parti. Donald Trump, c'est Donald Trump. Et Donald Trump fait de la publicité pour Donald Trump. C'est-à-dire qu'il a toujours agi de telle manière qu'il mêle à la fois ses convictions politiques avec ses ambitions financières.
En même temps, André Caspi, souvent, les observateurs nous disent que finalement, le Front National, ce n'est que la marque Le Pen. C'est quelque chose qu'on entend aussi beaucoup ici.
D'accord. Laissons de côté la politique française. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça ne correspond pas nécessairement à un mouvement qui serait plus large dans la population, puisque pour le moment, on ne le sait pas. C'est évident.
Mais alors, je repose ma question. En quoi est-ce que son programme, son projet est-il incompatible avec le Parti républicain américain?
Parce que c'est un projet qui est incompatible avec les valeurs américaines. Quand il dit, par exemple, que les Mexicains sont tous des violeurs, des voleurs, des gangsters, des dealers, il est évident qu'aucun candidat républicain ne peut s'exprimer de cette manière, même si... Au sein du Parti républicain, il y a bon nombre d'électeurs qui vont dans ce sens. Lorsqu'il dit, par exemple, qu'il faut interdire l'entrée du territoire aux musulmans, aucun candidat républicain ne peut soutenir une telle idée. Donc, c'est à chaque fois, si vous voulez, le but de Donald Trump, c'est de choquer. Et il y arrive. Il y arrive parce que, comme il n'a pas de limite dans ses propos, il peut dire tout et n'importe quoi, et puis ça passe. Mais il est évident que ça ne passerait pas de la part d'un politique professionnel, que ce soit Ted Cruz, que ce soit Jeb Bush ou un autre, parce que il y a là, si vous voulez, chez eux, un raisonnement politique. Chez Trump, c'est tout à fait différent. C'est en somme la force brute, c'est l'éclat permanent, c'est en somme la parole complètement libérée, ce qui est contraire, je crois, à la démonstration politique.
Est-ce que vous pensez qu'il pourrait être choisi par le Parti républicain, Soufiane Al-Sabag ?
Ce ne sera pas le cas, et je pense que il faut encore une fois voir cette élection primaire comme un long chemin de croix, un long chemin de croix. Et Donald Trump, pour l'instant, il commence tout juste la première phase de ce chemin de croix, qui est la plus longue, qui dure 6 mois, qui est l'avant-vote. Et l'avant-vote, on le voit, alors qu'il reste plus que 35 jours avant les premiers votes effectifs dans l'Iowa, on voit que Donald Trump se heurte à l'attention plus importante donnée aux autres candidats. Je le disais, dans l'Iowa, état clé, puisque c'est le premier qui vote, Donald Trump n'est plus en tête. Ted Cruz a pris la tête ce week-end, 31% contre 28% contre Donald Trump. C'est inédit. C'est le premier épisode, parmi, je crois, les 6, que les premières 6 épreuves, je dirais, que Donald Trump a passé pour réussir à capturer cette nomination républicaine.
Si je vous comprends bien, il y a les sondages, et notamment auprès des électeurs républicains, mais il y a aussi le système des primaires qui fait que les rapports de force sont modifiés.
Tout à fait. Par exemple, les 38% de Trump nationalement, ils ne valent strictement rien, puisque c'est vrai aujourd'hui, mais ce sera complètement différent le 2 février au lendemain des caucus de l'Iowa, ce sera complètement différent le 10 février au lendemain des primaires du New Hampshire. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Pourquoi ? Parce qu'il y aura des candidats qui s'élimineront, qui seront éliminés, qui se retireront plutôt. Et donc les 38% nationalement de Trump, ils ne veulent rien dire au titre de la dynamique de la course et au titre, tout simplement, que c'est état par état, donc sondage état par état, qu'il faut regarder les choses. Et sur ce petit jeu-là, évidemment, Trump, il n'a strictement rien à offrir puisqu'il n'a pas d'organisation politique, il n'a pas de soutien politique état par état. Et ce n'est que finalement de la com nationale, beaucoup de Twitter, beaucoup de...
Télévision
à l'échelle globale,
et en même temps,
rien
c'est
de concret.
En même temps, c'est rien de concret, c'est quand même une arme que d'être en tête des sondages. C'est pas rien de concret. Avoir l'opinion avec soi, c'est
non,
pas rien.
Je crois que
André Caspi.
Les Français doivent bien faire la différence entre les primaires aux États-Unis et la primaire... que ce soit chez les républicains ou chez les socialistes, en France. C'est pas du tout pareil. Parce que la primaire à la française, c'est un choix à l'intérieur d'un parti et sur le plan national. Et comme on vient de le dire, les primaires américaines, elles sont faites pour juger, pour jauger de l'état de l'opinion dans les différents états. Autrement dit, il faut savoir exactement quelle est la popularité de Trump dans l'Iowa. Quelle est la popularité de Trump dans le New Hampshire ? Et entre l'Iowa et le New Hampshire, il y a aussi beaucoup de nuances, parce que c'est pas du tout le même électorat. Et puis après, il va falloir décider si, oui ou non, Trump peut passer dans la primaire, je ne sais pas moi, de Floride, du Texas, de Californie. C'est-à-dire à chaque fois, vous avez un nouvel électorat. Et c'est ça le but de la primaire américaine. C'est pour ça que, même si je dépasse un peu les limites de votre émission, c'est pour ça que je pense qu'une primaire à la française porte le même nom que les primaires à l'américaine,
alors
mais c'est tout à fait différent. C'est tout à fait
complètement
différent.
Complètement.
C'est absolument exact. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Effectivement, c'est vraiment une dynamique de course qu'il faut... C'est comme ça qu'il faut l'apercevoir, cette primaire américaine.
Sans compter que ça va durer 6 mois.
Absolument.
Ou 5 mois, exactement.
Alors après, faisons quand même une hypothèse. Disons que Trump peut disons que Trump a l'investiture des républicains. Est-ce qu'on peut imaginer que le parti républicain, finalement, n'avalise pas cette candidature? Est-ce que c'est possible? Il y a ce qui s'appelle une convention nationale républicaine qui éventuellement pourrait...
Il y a des règles. Il y a des règles.
Mais ça fait partie des règles, la convention nationale républicaine.
Il y a des règles. C'est-à-dire que si Trump arrivait à avoir une majorité de délégués à la convention qui sont en sa faveur, il est évident qu'il y aurait de fortes chances qu'il soit nommé le candidat républicain pour les élections présidentielles. Mais moi, je pense que le principal danger, dans ce cas-là, ça n'est pas cela. Le principal danger, c'est que Trump rompe avec le Parti républicain.
Et se présente quand même.
Et se présente en tant que candidat indépendant.
D'ailleurs, il l'a déjà dit.
Et il a les moyens financiers de le faire. Et là, il va en effet complètement perturber le déroulement de la campagne électorale. Rappelez-vous ce qui s'est passé en 1992. Il y avait d'un côté le vice-président sortant, qui était un Bush, mais pas le fils, c'était le père. Et de l'autre côté, il y avait Bill Clinton. Mais il y a eu un troisième candidat, Ross Perot, qui a fait 20% des suffrages aux élections présidentielles et qui a pris pour l'essentiel ces suffrages aux républicains, ce qui fait que si Bill Clinton a été élu en 1992, c'est à cause de Ross Perot. Et si, évidemment, George Bush, le père, a été battu, c'est aussi à cause de Ross Perot. Donc, vous voyez, le danger qui peut en effet surgir, c'est que Donald Trump soit un candidat indépendant, il a les moyens financiers. Et par conséquent, même s'il ne recueillait que 10% ou 15% des suffrages en novembre 2016, ça pourrait perturber complètement le spectacle des élections présidentielles.
Sylviane Al-Savag.
Oui, c'est très juste, mais encore une fois, je pense que c'est un scénario qui est très, très, très hypothétique à l'heure qu'il est. Néanmoins, il y a des questions qui se posent.
Mais l'histoire montre qu'il y a des choses, alors c'est pas exactement comparable, mais il y a par exemple 76 où Reagan avait voulu se présenter face à Gerald Ford,
tout
président sortant.
Mais c'est une candidature plausible, c'est une candidature
Ford,
pertinente.
Ford, d'ailleurs, avait évidemment perdu contre Jimmy Carter.
Mais... Absolument, mais Reagan, encore une fois, a été deux fois gouverneur de Californie, donc il est ancré dans le paysage politique, alors que Trump, c'est pas du tout le cas. Il a son background de businessman qui présente certains avantages lorsqu'on s'adresse à l'électorat américain. Néanmoins, en termes de politique, en termes d'électabilité, c'est un néologisme, mais ça se dit en anglais.
Mais vous êtes comme André Cassidy, vous pensez qu'il y a un véritable risque que s'il n'obtient pas l'investiture du parti, s'il se considère comme maltraité, parce que c'est ça qu'il a dit, si je suis maltraité par le parti, alors je me présenterai quand même.
C'est très plausible. Encore ce week-end, pour donner un exemple, en ce moment, les candidats s'inscrivent dans chaque État formellement pour voir prétendre à recueillir des votes. Et pour la primaire de Virginie, l'administration exige que chaque candidat déclare, on va dire, sa flamme au Parti républicain de façon officielle et jure de ne pas se présenter en tant que candidat indépendant. Et ça, ça a fait des vagues sur Twitter. On l'a vu parce que Donald Trump n'a pas voulu, pour l'instant, il ne s'est pas engagé à ne pas se présenter comme candidat indépendant. Donc clairement, il y a une possibilité. Et clairement, si Donald Trump se présente, il va couler la candidature du candidat républicain. C'est inévitable.
Alors, chez les Républicains, il y a évidemment Donald Trump, mais il y en a d'autres. Il y a des candidats qu'on pourrait qualifier peut-être de modérés. Je pense par exemple à Jeb Bush.
Alors voilà où on en est. Notre pays est dans une très mauvaise passe. Et la question est, qu'est-ce qu'on va faire ? On ne va pas arranger la mauvaise situation à Washington en élisant les personnes qui ont soit aidé à en arriver là, soit se sont montrées incapables d'arranger les choses. Depuis le début, notre président et son équipe des affaires étrangères ont eu tellement envie d'écrire l'histoire qu'ils ont été incapables de faire la paix. Avec sa politique étrangère au rabais, l'équipe Obama-Clinton-Kerry laisse derrière elle des crises qui s'étendent. Une violence à laquelle on ne s'oppose pas, des ennemis non identifiés, des amis pas défendus et des alliances qui se défont.
Voilà, Jeb Bush, c'était il y a quelques semaines, André Caspi. Les candidats modérés, alors je disais modérés, je ne sais pas si ça convient, vous donnez un peu de la tête, Jeb Bush, modéré ?
Non, Jeb Bush est certainement modéré, mais il est très loin dans les sondages.
À côté de Trump, c'est modéré ?
Oui, bien sûr. Non, je pensais que vous vouliez faire allusion à Ted Cruz.
Ouais.
Bon, Ted Cruz qui vient après Donald Trump, mais assez loin d'ailleurs de Donald Trump, n'est pas si modéré que cela. Hein. Il a fait partie du Tea Party, donc c'est, disons, la frange plutôt droitière du Parti républicain, mais à l'intérieur du Parti républicain. Donc, si vous voulez, on peut pas tout à fait comparer Ted Cruz avec Jeb Bush, c'est pas tout à fait la même chose. Bon, cela dit, pour en terminer avec Donald Trump, parce qu'on va quand même pas passer toute l'émission sur lui, il faut pas oublier que ce même homme a aussi financé des campagnes d'Hillary Clinton. Et je crois que c'est quand même surprenant, parce que ça veut dire qu'au fond, il finance, je ne dis pas au hasard, pas du tout. Il finance en fonction de ses intérêts financiers, c'est-à-dire, au fond, je me demande si finalement, c'est une hypothèse, hein, peut-être que tout le monde ne sera pas d'accord, mais je me demande si finalement Donald Trump n'est pas en train de mener une campagne tout simplement pour faire de la publicité pour Donald Trump. C'est-à-dire qu'au fond, ce qui l'intéresse, c'est de montrer que il a un empire financier que vous avez rappelé tout à l'heure. C'est vrai que de temps en temps, cet empire financier est menacé par ses propres paroles, parce que quand il a dit que les musulmans ne pouvaient plus entrer ou ne pourraient plus entrer sur le territoire américain, il y a des États arabes qui ont, en somme, arrêté les affaires avec Donald Trump. Mais je pense que c'est temporaire. Ça veut donc dire qu'au fond, Donald Trump, c'est avant tout le défenseur de Donald Trump.
Mais vous pensez qu'il veut pas y aller?
Je sais pas.
Enfin, je peux vous posez la question, en tout cas.
Non, je peux pas vous dire, je suis pas dans sa tête.
Vous vous posez la question.
Oui, je pose la question, je suis pas certain.
Soufiane Al-Sabag?
Non, je pense qu'il est...
Il fait d'abord de la publicité pour lui-même?
Il fait beaucoup de publicité pour lui-même. Je pense qu'il a 69 ans, il a connu tout le succès qu'il faut connaître dans les affaires. Il se dit pourquoi pas, 69 ans c'est ma dernière chance de faire un petit truc sympa en politique, et il y va. Il a les moyens, il a les arguments, on va dire, si on peut appeler ça des arguments.
Faire un truc sympa et devenir président des États-Unis.
Mais exactement, et je pense que s'il est élu, il sera président et il fera n'importe quoi, mais il sera président.
Et alors, quid des chances des autres, et notamment effectivement Ted Cruz, qui pour l'instant est deuxième dans les sondages, même si on sait, les sondages ne disent pas toujours ce qui se passe.
Encore une fois, parlons de...
Et que le système des primaires modifie les rapports de force, on l'a compris aussi.
Absolument, parlons de réel justement, parce que les deux premiers États qui votent ont une importance qui est surdimensionnée, mais elle est réelle. C'est-à-dire que l'Iowa, un État conservateur, dominé par les évangélistes, contre le New Hampshire, un État plus modéré du Nord-Est, marque une vraie fracture dans le Parti républicain. Et traditionnellement, vous avez le favori de l'aile conservatrice qui emporte l'Iowa et le favori de l'aile plutôt modérée qui emporte le New Hampshire. Et la course, au cours des semaines qui suivent, se dessine selon cette fracture. Et regardez bien les sondages actuellement. Qui est en tête dans l'Iowa? Encore une fois, c'est Ted Cruz. Aujourd'hui, c'est Donald Trump qui est en tête dans le New Hampshire. Mais de plus en plus, Marco Rubio, de l'aile modérée, est en train de monter. Et il a encore un mois et demi pour le faire. Donc ce qui se dessine de manière tout à fait logique et tout à fait, je dirais, traditionnelle, en vertu de ce qui s'est passé dans l'histoire récente américaine, dans les primaires, c'est que Cruz sera le favori de l'aile conservatrice et il sera opposé à Rubio, le favori de l'aile modérée. Voilà ce qui est réaliste à l'heure qu'il est. Donc voilà les deux candidats qui convient de suivre le plus, au-delà de toute la bulle Trump qui est tout à fait...
Vous êtes d'accord, Alexandre? On va vers ce match Cruz-Rubio?
Je pense que c'est en effet une très bonne analyse. Cruz représente en effet l'aile conservatrice. Marco Rubio, qui est un peu plus jeune que Cruz, mais pas tellement d'ailleurs. Marco Rubio a beaucoup de soutien parce que il représente la deuxième génération des Cubains américains. Il est sénateur, Ted Cruz aussi d'ailleurs. Donc ça veut dire que l'un et l'autre ont une expérience politique. Ce ne sont pas des gens qui ont la langue aussi pendue que Donald Trump. Mais ils savent dire ce qu'ils ont envie de dire. Je crois qu'ils ont des chances, en effet, de l'emporter chez les Républicains. Mais moi, ce que je constate, c'est que dans les circonstances actuelles, avec un Barack Obama qui a quand même beaucoup déçu, hein, même si certains restent encore ses supporters, les démocrates auraient dû logiquement perdre les élections présidentielles. Mais la manière dont les Républicains se conduisent... Je parle des Républicains américains.
Ça fait les affaires des démocrates.
Ça fait bien sûr les affaires des démocrates.
Et d'ailleurs, on le voit bien, parce qu'effectivement, du côté démocrate, on voit une Hillary Clinton extrêmement discrète, finalement. Ah bah oui. Elle se frotte les mains, elle n'a qu'à regarder, tout ça la sert indirectement.
Elle a tout intérêt à être discrète, parce que elle est sûre de l'investiture démocrate. Et en même temps, comme il y a quand même une certaine lassitude aux États-Unis à l'encontre des Clinton, on ne peut pas dire que les Américains se précipitent dans les bras d'Hillary, mais il n'empêche que à choisir entre Donald Trump et Hillary Clinton, je pense que les Américains n'hésiteront pas.
Soufiane Al-Sabag, vous êtes d'accord avec ça? Hillary Clinton n'a qu'à regarder les choses se faire, même s'il y a quand même un moment où il va falloir qu'elle sorte du bois.
Oui, elle le fera.
Oui, mais elle le fera pas avant le printemps. Le printemps, sans doute, histoire d'attendre que la primaire républicaine se définisse bien, qu'elle sache qui, en fait, elle a en face d'elle. Est-ce que c'est Rubio? Est-ce que c'est Cruz? Les choses sont totalement différentes si c'est l'un ou si c'est l'autre. Et comment elle se place par rapport à ça?
Donc pour l'instant, wait and see.
Wait and see. Pendant la sortie de Trump sur les musulmans, Hillary Clinton n'a pas dit mot. Et c'est tout à fait son jeu, c'est tout à fait logique. Et il faudra encore une fois attendre que les choses deviennent concrètes, qu'on sorte de toute cette bulle pour qu'on puisse voir qui et où et comment.
Toujours sur Hillary Clinton, on la voyait très handicapé, André Caspi, c'est vrai, avec certaines affaires. Alors, je pense notamment, bien sûr, à ses mails envoyés par sa boîte personnelle alors qu'elle était secrétaire d'État. Je pense aussi à sa responsabilité dans cette attaque de l'ambassade américaine en Libye, où, on s'en souvient, l'ambassadeur avait perdu la vie. Elle a dû s'expliquer, elle a dû répondre face à une commission parlementaire. Et finalement, on a l'impression qu'aujourd'hui, elle a surmonté, en tout cas, ces deux épreuves-là, là, que j'ai mentionnées. Ça semble plutôt être derrière elle.
Dans une campagne.
Alors qu'on disait que c'était vraiment des obstacles de taille.
Oui, mais dans une campagne électorale, les affaires sortent les unes après les autres. Donc, il y a eu ces deux affaires. Il y en a eu même une troisième. Hein. C'était les liens avec la Fondation Clinton.
Absolument.
Et notamment la vente de certaines mines aux Russes. Mais tout cela montre simplement que pour l'instant, le débat n'est pas sur Hillary Clinton. Le débat viendra sur Hillary Clinton lorsque, en effet, les Républicains auront désigné ou en tout cas bien marqué leur inclination vers tel ou tel candidat. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, ce sera vraiment l'opposition entre les Républicains et les démocrates. Alors, pour l'instant, Hillary Clinton, elle reste en retrait parce que elle a quand même des handicaps, hein, il faut pas l'oublier. Je ne dis pas le handicap de l'âge parce que Donald Trump a un an de plus qu'elle. Mais enfin, elle est quand même nettement plus âgée que Ted Cruz et nettement plus âgée que Marco Rubio.
Son mari est un handicap ?
C'est un avantage et un handicap, les deux à la fois. C'est un avantage parce qu'il a beaucoup de charisme, beaucoup de sympathie dans la population américaine. Et c'est un handicap parce qu'il a été président pendant deux mandats, parce qu'il est quand même très envahissant sur le plan de l'opinion publique.
Sur le plan de la communication aussi.
Oui,
les mauvaises langues aux États-Unis disent que on a chargé Chelsea, leur fille, de s'occuper du papa, de faire qu'il ne fasse pas trop de sorties, qu'il ne gêne pas trop la maman.
Oui, mais vous
savez, sûrement des mauvaises langues.
En 1992, toujours, c'est encore ma référence, Bill Clinton disait, en élisant Bill Clinton, vous aurez l'avantage d'en avoir deux à la fois, c'est-à-dire Bill et Hillary. Je crois que si les Américains élisent Hillary, il est vraisemblable qu'ils en auront peut-être trois, parce qu'il ne faut pas écarter les ambitions politiques de Chelsea. Donc, tout cela fait que les Américains ne sont certainement pas enthousiastes envers la candidature d'Hillary Clinton, mais à défaut de mieux, pourquoi pas.
Soufiane Al-Sabag.
C'est très juste, je pense que l'alternance politique devrait jouer en faveur des Républicains, c'est très juste, après deux mandats démocrates. Avant, on a eu deux mandats républicains, avant ça, on a eu deux mandats démocrates. Mais effectivement, l'état des choses au Parti républicain est tel que ça paraît tout à fait irréaliste.
Ils gâchent leur chance.
Ils gâchent leur chance, c'est absolument juste. Même un Ted Cruz qui fait partie de l'aile plus conservatrice, aujourd'hui, contre Hillary Clinton, c'est 10 points derrière dans les sondages nationaux. Donc c'est très très lourd. Et même Marco Rubio, plutôt de l'aile modérée, a pris des positions très conservatrices pour plaire notamment à l'aile du Tea Party, qu'il a élu en Floride en 2010, il faut s'en souvenir. Donc aujourd'hui, c'est plutôt à l'avantage des démocrates, même si effectivement, ils ont une candidate qui ne leur plaît pas tout à fait, qui a un gros bagage politique et beaucoup de défauts.
Alors là aussi, hein, faudrait pas oublier les autres côté démocrate. Hein. On a parlé d'Hillary Clinton, on a même parlé de la famille Clinton, finalement, oui. Parce qu'on comprend que c'est un PAC, c'est le PAC Clinton. On a Bernie Sanders aussi, sénateur démocrate du Vermont, oui. L'un des candidats les plus atypiques peut-être de cette campagne présidentielle, parce que rares sont ceux aux États-Unis qui se réclament du socialisme comme lui. Écoutez Bernie Sanders.
What this campaign is about is pretty simple. What this campaign is about is saying.
De quoi est-il question dans cette campagne? C'est assez simple. Il s'agit de rappeler que ce pays et son gouvernement appartiennent au peuple et pas à une poignée de milliardaires. Si on explique ce qu'est la social-démocratie en regardant le Danemark, la Suède, la Norvège, tous les pays européens qui ont un gouvernement socialiste, dans ces pays, l'accès à la santé est ouvert à tous. Je ne pense pas que ce soit un gros problème. De même, je pense que tous les lycées et les universités publiques doivent être gratuits, ce qui veut dire que chacun doit pouvoir avoir accès à l'éducation. Et je crois que les Américains seront d'accord avec l'idée que ce programme doit être financé par des taxes sur les transactions financières. Nous avons renfloué Wall Street. Il est maintenant temps que Wall Street aide la classe moyenne de ce pays.
Voilà, donc Bernie Sanders qui prend cette social-démocratie comme modèle, qui prend comme exemple les démocraties nordiques. C'est vrai, André Caspi, qu'au départ, cet homme, Bernie Sanders, était donné très largement perdant derrière Hillary Clinton. Et puis il y a eu un moment où il a doucement, alors c'est vrai, doucement, mais grappillé des points dans les sondages. On le voyait même dans certains états devant Hillary Clinton. Là, on a l'impression que ce qu'on a appelé pendant un moment la Bernie-mania est un petit peu en train de s'essouffler. La question, elle est simple, André Caspi. Dans quelle mesure est-ce que vous pensez que Bernie Sanders peut perturber l'investiture d'Hillary Clinton?
Dans une très faible mesure, pour deux raisons. La première, tout d'abord, c'est qu'il est sénateur du Vermont. Alors, dans le Vermont, en effet, on parle beaucoup des problèmes sociaux, on parle du socialisme.
Oui, il y a une culture, il y a une tradition de la contestation dans le Vermont.
Oui, et puis le socialisme à l'américaine, c'est quand même pas tout à fait la même chose que les partis socialistes en Europe. Hein.
Mais lui n'hésite pas à prendre comme exemple les partis socialistes européens.
Hein. Et puis, dans un certain sens, c'est courageux, parce que dire aux États-Unis qu'on est socialiste, ça n'est quand même pas un argument de vente.
On dit que c'est de moins en moins vrai, et notamment chez les jeunes.
Peut-être. Mais comme les jeunes sont ceux qui votent le moins, je suis pas très sûr que ça soit très efficace. La deuxième raison, c'est que aujourd'hui, avec les attentats de Paris et de San Bernardino, et peut-être malheureusement d'autres attentats, il est évident que les problèmes de sécurité nationale sont passés au premier plan. Et là, Bernie Sanders est inexistant. D'ailleurs, dans le débat qu'il a eu avec Hillary Clinton, il lui a laissé pratiquement la porte ouverte en lui disant que elle était infiniment plus compétente que lui, ce qui est vrai d'ailleurs, puisqu'elle a quand même été pendant 4 ans secrétaire d'État. Donc je crois que Bernie Sanders, c'est bien, mais c'est bien parce que ça anime un peu le débat chez les démocrates, mais à vrai dire, ce n'est certainement pas un danger pour la candidature d'Hillary Clinton.
Je ne sais pas si c'est bien, mais en tout cas, c'est révélateur de quelque chose, André Caspi. C'est peut-être aussi le signe que finalement, les mouvements contestataires, alors que nous, on a beaucoup vu du côté de l'Europe avec les indignés, mais qu'il y a eu aussi, il faut s'en souvenir, du côté des indignés, notamment avec le mouvement Occupy Wall Street, tout ça n'est pas complètement mort aux États-Unis. Et Bernie Sanders, d'une certaine manière, incarne tout ça.
Oui, c'est vrai. Mais enfin, encore une fois, je crois que sur le plan électoral, ça n'est pas décisif.
Soufiane Al-Sabag.
Exactement la même analyse. C'est-à-dire qu'encore une fois, il faut regarder les sondages état par état, et que la candidature de Bernie Sanders va souffrir d'un soutien trop peu important dans les premiers états, et que la candidature va mourir d'elle-même, comme tant d'autres du côté républicain, et que c'est le process électoral qui tout simplement
puis
va
faire son
œuvre.
Je suis sûr que Bernie Sanders se ralliera volontiers à Hillary.
Absolument,
Clinton,
hein, parce que c'est déjà convenu, il n'y a pas vraiment de contestation de ce côté-là.
Alors c'est amusant parce qu'en fait, on parlait de Donald Trump en début d'émission, et puis l'un et l'autre, vous avez l'air plutôt d'accord pour dire que d'abord, il n'aura probablement pas l'investiture du parti, que le jeu, le système des primaires fait que ça sera comme ça que ça risque de se passer, qu'on va vers un match Rubio. De l'autre côté, je vous parle de Bernie Sanders et puis vous me dites c'est un peu pareil, finalement il va laisser filer Hillary Clinton. Et pourtant, de fait, on parle de Trump d'un côté et de Sanders de l'autre. C'est-à-dire qu'on a une campagne qui est quand même extrêmement polarisée entre des candidats qui sont particulièrement radicaux, avec Trump d'un côté, Sanders de l'autre. De quoi est-ce que cette polarisation, André Caspi, vous semble être le signe, le révélateur?
Qu'elle soit polarisée, c'est normal, parce que toutes les campagnes électorales...
Elles sont toujours aussi polarisées?
Oui, elles sont toujours polarisées, parce que par définition, il y a d'un côté les républicains, de l'autre côté les démocrates, il faut bien qu'il y ait des différences, mais...
Oui, sauf que là, ceux qui font le jeu, c'est ceux qui sont vraiment...
D'accord, mais une fois que les primaires sont passées, c'est-à-dire à partir de la fin du mois de juin,
Eh bien, à ce moment-là, les candidats, que ce soit le candidat démocrate ou le candidat républicain, les candidats doivent rassembler. Et pour rassembler, il faut qu'ils se recentrent. Mmh. Autrement dit, un candidat républicain qui serait trop à droite n'a aucune chance. Il faut qu'il manifeste en somme quelques inclinations du côté du centre-droit. Et un candidat démocrate qui serait trop à gauche doit lui aussi se recentrer du côté du centre-gauche. Donc ça veut dire que finalement, il y a une opposition parce qu'on n'est pas encore en plein dans la campagne finale et que l'on est simplement dans les campagnes qui agitent les différents partis politiques. Donc ce que je crois, c'est que c'est tout à fait normal et on attendra évidemment les résultats des primaires et des caucus, parce que c'est là au fond que l'on verra véritablement comment le débat va naître.
Soufiane El-Sabag, vous êtes d'accord pour dire que finalement cette polarisation du débat, elle est naturelle historiquement, voilà. Je m'attendais à une autre réponse pour ne rien me cacher. Je me disais, André Caspi va me dire, mais voilà, c'est aussi le signe de la montée des inégalités aux États-Unis, cette forte polarisation. Et non, il m'a pas dit ça.
Je suis désolé de vous décevoir.
Non, vous me décevez pas du tout. Vous me décevez pas.
La prochaine fois, je ferai mieux.
Au contraire, j'aime beaucoup être surpris. Soufiane El-Sabag.
Justement, j'allais apporter ce bémol, puisqu'effectivement, c'est normal que les campagnes politiques américaines d'un côté et de l'autre soient polarisées. Ce qui n'est pas normal, c'est qu'elle le soit de plus en plus, élection après élection, primaire après primaire. En 2012, c'était une vraie boucherie du côté républicain, la primaire, parce qu'on a eu des positions ultra-conservatrices qui ont failli faire dérailler la candidature de Mitt Romney. Aujourd'hui, on a Donald Trump. En face de Donald Trump, on a quelqu'un qui se réclame du socialisme. Donc oui, ça dit quelque chose sur la société, la culture américaine, qui est en voie de changement, qui est en voie de radicalisation, on peut le dire, politique d'un côté comme de l'autre. Occupy Wall Street versus Tea Party, Donald Trump contre Bernie Sanders et tant d'autres choses qui font que au Congrès, là où se concentre le pouvoir et en fait les lois américaines et le process politique américain, on retrouve exactement la même polarisation.
France Culture, Culture Monde par Florian Delorme.
Voilà, alors de 2015 à 2016, Un Monde en Marche, c'est notre série cette semaine. Aujourd'hui, novembre 2016, où la présidentielle américaine mènera-t-elle le monde? On va essayer de voir maintenant quelles pourraient être les conséquences de cette élection américaine sur la politique extérieure qui sera menée par la Maison-Blanche. On va retrouver pour ce faire Laurence Nardon qui est en direct depuis New York. Bonjour Laurence Nardon.
Bonjour,
merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes politologue. Alors, regardons un peu les conséquences en termes de diplomatie. On a parlé de Trump, parlons encore un peu de Trump, parce que Trump a régulièrement affirmé qu'il était favorable à un rapprochement entre Washington et Moscou. Il a déjà dit qu'en cas de victoire, il s'engageait pour mettre fin aux différends politiques entre les deux pays. Il disait il y a quelques jours, à mon sens, la Russie et les États-Unis devraient mieux s'entendre afin de faire face au terrorisme et de rétablir l'équilibre mondial. Et c'est sans parler des bénéfices que le respect mutuel est susceptible d'apporter. Et voilà ce qu'il disait encore plus récemment, c'était le 21 décembre dernier sur ABC. Écoutez.
Je suis un négociateur qui a extrêmement bien réussi. C'est ce que j'ai fait pendant des années et la raison pour laquelle je connais les gens, c'est que les gens sont comme les affaires. Et je pense que je vais très bien m'en sortir pour le bien de notre pays. Ce que je veux, c'est rendre sa grandeur à l'Amérique. Je crois que je vais bien m'entendre avec Poutine. Je pense également que je vais très bien m'entendre avec d'autres dirigeants. Obama ne s'entend pas avec Poutine, qui lui non plus ne supporte pas notre président. Cela nous cause des problèmes et, je le dis depuis longtemps, si la Russie veut bombarder l'État islamique et nous rejoindre dans cet effort de guerre, cela ne me dérange pas du tout. Je pense que Poutine est un atout, pas un handicap. Si Poutine me respecte, dit que je suis brillant et d'autres choses très gentilles, je l'accepte au nom de notre pays parce que bien s'entendre avec la Russie, c'est quelque chose de positif et non pas de négatif.
Voilà, je vais bien m'entendre avec Poutine et d'ailleurs, Poutine semble de son côté apprécier Donald Trump. C'est un homme hors du commun, talentueux sans doute. L'évaluation de sa candidature n'est bien sûr pas de notre ressort, mais il est le leader absolu de la course présidentielle, disait-il. Il se dit partant pour porter les relations russo-américaines à un autre niveau de coopération, beaucoup plus étroite et approfondie. Donc visiblement, du côté du Kremlin, on se réjouit. Ce qui apparaît, Laurence Nardon, c'est qu'en cas de victoire de Trump, même si on a bien compris que c'est pour l'instant très hypothétique, Trump est favorable à une meilleure coopération entre la Russie et les États-Unis. Ce serait la grande évolution, Laurence Nardon.
Bah, Il me semble qu'il y a beaucoup à dire. En fait, déjà, en préalable, vous en avez sans doute parlé tout à l'heure, quand on écoute Trump, il faut faire un peu le tri il faut déjà dépasser la violence de ses propos, et il faut voir aussi que c'est un candidat qui n'est pas forcément très cohérent sur la durée entre ses diverses déclarations. Donc, ce qu'il dit aujourd'hui n'est peut-être pas ce qu'il répétera demain. Ceci dit, c'est vrai que pour lui, Trump est était sur la même ligne un peu agressive et populiste, donc ce sont deux hommes qui doivent se plaire plus que d'autres. Et il est vrai également que pour Trump, le véritable ennemi, c'est la Chine. Non pas tant pour ses atteintes à la démocratie et aux droits de l'homme, mais plutôt sur le plan économique. Et donc, il va sans doute avoir un discours effectivement plus positif sur la Russie. D'une manière générale, je trouve que quand on écoute ce que dit Trump soigneusement sur la politique étrangère, il est assez pragmatique, il est beaucoup moins finalement néoconservateur et beaucoup moins va-t-en-guerre que d'autres candidats, au premier rang desquels Ted Cruz par exemple.
Moins interventionniste qu'un Ted Cruz, d'accord André Caspi?
Vous savez, je pense que pour Donald Trump, la politique étrangère est relativement secondaire et je ne suis pas certain qu'il soit un grand spécialiste des relations internationales. Il tient des propos qui sont forts, comme il les tient d'ailleurs sur la politique intérieure, mais est-ce qu'il a un programme de relations internationales, j'aimerais qu'on me le démontre.
Bah regardons Laurence Nardon, ou qu'est-ce que vous en avez compris? Regardons par exemple sur le dossier syrien, parce qu'on a bien sûr entendu Trump nous expliquer qu'il ne voulait pas de l'arrivée des réfugiés syriens sur son territoire, mais disons sur les positions purement diplomatiques sur ce conflit syrien, quelle est sa position à lui?
Oui, alors effectivement, une fois de plus, une fois posé l'hypothèque sur le sérieux de son programme, ce qu'il dit sur la Syrie représente bien, une fois de plus, ce que je pense être un certain pragmatisme de Donald Trump, c'est-à-dire qu'il dit que les États-Unis n'ont pas à régler le problème tout seuls, que s'ils doivent faire quelque chose, il dit la même chose sur l'Ukraine d'ailleurs, hein, que si les États-Unis doivent intervenir, c'est au cas par cas, et si possible en coalition avec d'autres. Et notamment, bon, sur la Syrie, il dit à peu près la même chose que tous les autres aujourd'hui. Les candidats américains, quels qu'ils soient, hésitent beaucoup à proposer de renvoyer des soldats américains dans la zone, hein, les « boots on the ground ». Ils savent que ça ne plaît pas à l'opinion, même si les sondages bougent sur ce sujet. Et donc, ils hésitent tous, et Donald Trump, comme les autres, à renvoyer des troupes américaines sur le sol.
Souviens-toi de sa bague. Laurence Nardon insiste beaucoup sur le pragmatisme de Trump.
Je pense que au sein du Parti républicain, en matière de politique étrangère, on a toujours eu les réalistes contre les idéalistes. Et ce qui est très intéressant de constater, c'est qu'on dit toujours que la candidature de Trump est très à droite, mais ce n'est pas du tout le cas en politique étrangère. Puisque Donald Trump, contrairement à Marco Rubio, contrairement à Ted Cruz, se situe plutôt sur l'aile réaliste du Parti républicain, quand les autres sont idéalistes. Donc effectivement, il prend des positions qui sont moins tranchées. Quand on essaye de décrypter ce que serait son programme dans les faits, on constate que c'est beaucoup de paroles, mais dans les faits, ça ressemble beaucoup à du Barack Obama.
Alors, il y a peut-être un point sur lequel ça, c'est pas du Barack Obama, c'est la question de la relation entre les États-Unis et Israël, Laurence Nardon. Parce que il me semble que Trump devrait rencontrer le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou dans les jours qui viennent. Trump pourrait constituer une forme de réchauffement entre Israël et les États-Unis. On sait que c'est très difficile entre Obama et Netanyahou. Vous savez, André Caspi. Et puis André Caspi.
Infiniment plus proche de l'État israélien que Donald Trump. D'ailleurs, ça fait partie de son programme. Et si vous regardez bien la liste des thèmes qu'elle développe, il y a notamment le thème des relations avec Israël. Ça veut donc dire que, quel que soit le candidat, il est évident que chacun de ces candidats ne manquera pas de souligner l'amitié entre les États-Unis et l'État d'Israël, la nécessité d'une reprise des négociations entre les Israéliens et les Palestiniens, le rôle prédominant des États-Unis. Ça fait partie des rengaines, ça. Et ça, je pense qu'on le retrouvera nécessairement dans le programme de chacun.
Laurence Nardon.
Oui, tout à fait d'accord. L'attachement à l'allié exceptionnel qu'est Israël pour les États-Unis est un passage obligatoire pour tous les candidats, surtout républicains, bien entendu, puisqu'ils ont derrière eux les évangéliques du Sud qui sont extrêmement sionistes. Hillary Clinton est sur la même ligne, effectivement. Et je pense que Donald Trump, qui a assez peu de relations jusqu'à présent avec les représentants israéliens, va travailler le sujet s'il veut être un peu sérieux dans la suite de sa campagne.
Alors, on parlait d'Hillary Clinton. Écoutez justement Hillary Clinton sur la stratégie pour vaincre l'État islamique.
I laid out a three-part plan to defeat ISIS and the broader extremist movement.
J'ai exposé un plan en trois parties pour vaincre l'État islamique et le mouvement extrémiste global. Premièrement, vaincre Daesh en brisant son emprise sur le Moyen-Orient, en frappant ses combattants, dirigeants et infrastructures à travers les airs et en intensifiant notre support aux forces locales qui peuvent se battre sur le terrain. Deuxièmement, vaincre l'État islamique dans le monde entier en démantelant son réseau global de terreur qui fournit de l'argent, des armes, de la propagande et des combattants aux djihadistes radicaux. Troisièmement, les combattre ici, chez nous, en faisant tomber les complots, en empêchant la radicalisation et en durcissant nos défenses. Il faudra d'habiles négociations pour poursuivre les efforts du secrétaire Kerry et continuer d'encourager la réconciliation politique en Irak et la transition politique en Syrie.
Voilà, une stratégie en trois temps, briser son emprise en intensifiant les frappes et les soutiens aux forces locales, démanteler le réseau global, notamment sur le plan financier, empêcher la radicalisation sur le sol américain. Peut-être sur ce point en particulier, Laurence Nardon, mais de façon plus générale, on se souvient évidemment qu'Hillary Clinton était la secrétaire d'État de Barack Obama. En quoi est-ce que sa politique étrangère pourrait se démarquer de celle de l'actuel président, Laurence Nardon?
Alors, il est vrai que Hillary Clinton semble avoir le programme de politique étrangère le plus fouillé, le plus solide, le plus détaillé de tous les candidats. Bon, Marco Rubio a...
Elle a l'expérience avec elle, évidemment.
Oui, et puis elle a des équipes derrière, enfin, donc c'est du solide. Après, effectivement, sur le fond, qu'est-ce qu'elle dit? Elle est, depuis le début, on en avait vu des traces lorsqu'elle était secrétaire d'État, elle est plus interventionniste que Barack Obama. Elle voulait aller en Syrie, lui ne voulait pas, donc il l'a emporté. Elle était également plus favorable que lui à une prise en main des opérations en Libye. Et donc, elle est de l'école interventionniste américaine, typique des démocrates, qui veut intervenir à l'étranger pour faire le bien, rétablir la démocratie, garantir les intérêts de l'Amérique aussi, mais dans le respect des institutions internationales. Donc, on ne va pas être dans l'unilatéralisme à la George Bush. Mais, effectivement, elle est représentante d'une école plus active, moins réticente que Barack Obama.
André Caspi, vous la voyez aussi plus interventionniste, même si on peut peut-être aussi penser, il nous faut souvent le coup, mais qu'elle a changé. On l'a entendu cette année expliquer qu'elle, sur la question de l'intervention en Irak, elle regrettait finalement son vote.
Oui, c'est vrai. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier qu'elle a été la secrétaire d'État du premier mandat, oui, et non pas du second. Ce qui veut dire que le premier mandat avait quand même des caractéristiques différentes de ce qui a été le second mandat. Et au cours de ce second mandat, je crois qu'elle a pris un peu ses distances vis-à-vis de Barack Obama. Elle ne peut pas les prendre complètement, parce que ce serait contraire à ses intérêts politiques. Elle est quand même... Elle va être sans doute la candidate démocrate, donc elle veut être le successeur de Barack Obama. Elle a été l'un de ses principaux lieutenants. Elle ne peut pas véritablement rompre avec lui. Mais je crois que elle a plus l'esprit de décision, elle a plus l'esprit d'intervention que Barack Obama. Barack Obama est un homme qui hésite, qui quelquefois recule, comme ça a été le cas en 2013 lorsqu'il s'est agi la fameuse ligne rouge qui avait été franchie par les Syriens mais que Barack Obama n'a pas voulu condamner
concernant l'utilisation d'armes chimiques.
Tout cela en somme montre que il y a chez Hillary Clinton plus de détermination qu'il n'y en a chez Barack Obama. Et en ce sens, je crois que sur le plan de la politique étrangère, elle est sans aucun doute le candidat ou la candidate qui est le mieux placé, qui comprend le mieux les questions internationales, pour que les États-Unis puissent reprendre leur rôle planétaire, parce que aujourd'hui, la puissance américaine est en recul par rapport aux grands problèmes internationaux.
Et en même temps, on sait bien que dans ces élections, c'est d'abord les questions intérieures, internes, qui priment avant...
Sauf que, je vous le rappelle, avec les attentats, il est évident que les questions de sécurité nationale ont repris le dessus, alors que traditionnellement, ça n'était pas le problème essentiel.
Soufiane El-Sabag.
Absolument, je pense que là, en l'occurrence, pour... entre Hillary Clinton et Barack Obama, on retrouve les vieilles fractures de la primaire de 2008, où effectivement Hillary est perçue comme plus interventionniste, au contraire d'Obama. Et tout à l'heure, on parlait des faiblesses éventuelles d'Hillary Clinton. La politique étrangère, à mon sens, n'en est pas du tout une pour elle. Et elle aura des idées très concrètes à opposer à celles de Marco Rubio, si c'est lui le nominé, qui est tout à fait dans la droite ligne de George Bush, très interventionniste, va-t-en-guerre. Et aujourd'hui, rien n'indique que les Américains veulent revenir aux idées de Bush.
I'm Darren and I'm turning out for education.
I'm EJ and I'm turning out for marriage equality.
My name is Lil Lena and I'm turning out for reproductive rights.
Merci beaucoup à nos trois invités du jour, à Laurence Nardon en particulier qui était en direct depuis New York, donc il s'est levé un petit peu tôt, donc je la remercie doublement quand même d'avoir accepté notre invitation ce matin, ainsi qu'à vous deux messieurs André Caspi et Soufiane El-Sabag. Allez, je rappelle certains de vos ouvrages, vous André Caspi, Barack Obama, La Grande Désillusion, c'était chez Plomb en 2012, mais aussi Les Présidents Américains, c'était également en 2012 je crois, et puis vous Soufiane El-Sabag, La Nouvelle Droite Américaine, La Radicalisation du Parti Républicain à l'ère du Tea Party. C'était ces deux mots police. Merci beaucoup. La suite de cette série, ça sera évidemment demain à propos de l'Afrique. Nous parlerons d'Afrique.